cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 21 avril 1993.
L'esprit de Descartes l'aspect de la transcendance est relativisé par le fait même. Il s'agit pour nous, étant à la fin de ce XXe siècle et regardant attentivement ce qui se passe au plan philosophique aujourd'hui, après la philosophie hégélienne, l'éclosion de toutes ces idéologies athées et l'éclosion de toutes ces philosophies athées provenant de ce primat de l'immanence de l'esprit qui réfléchit sur lui-même, sur sa propre vie, sur son propre développement vital. Et dans cette réflexion sur la vie de l'esprit, on veut découvrir l'absolu. L'absolu n'est plus en dehors. Dieu qu'il a eu tort. ce rejet d'une recherche de la vérité. La mort de l'intelligence qui ne veut plus avoir qu'une vie dans l'immanence et dans la pure immanence.
Quelles sont les mises
nécessaire, propre de notre monde d'aujourd'hui. Si l'Esprit Saint, parce que toujours tous les ordres religieux ont été suscités pour répondre à une miséricorde divine par rapport à une misère humaine, être les témoins de la vérité, c'est cela, puisque Dieu est infiniment miséricordieux, c'est le Père de toutes les miséricordes, et les hommes ont besoin de témoins de cette miséricorde. Or, on ne peut pas nier que la plus grande misère de notre monde d'aujourd'hui, c'est cet orgueil, peut-être inconscient. Je ne porte pas de jugement au point de vue éthique, mais je constate, affirmer victorieusement la mort de Dieu, affirmer victorieusement que Dieu n'existe pas, c'est l'orgueil le plus grand qui soit. C'est l'homme qui s'oppose à Dieu et qui nie Dieu et donc qui s'exalte. Et l'exaltation de son intelligence à ce moment-là devient le mal suprême. Or, on est en face d'un monde qui, aujourd'hui, proclame cela de la manière la plus éclatante. Ça fait bien, aujourd'hui, d'être athée. Ça, c'est très net. Au moins, on est intelligent. On est en face de cela. Et c'est pas commode de bien comprendre comment répondre à cet orgueil. Il y a d'autres marques de misère. C'est évident. Misère du sida. La misère du cancer. Le sida étant sûrement la misère caractéristique de notre monde d'aujourd'hui, au point de vue physique, au point de vue biologique. Le cancer également. Et la misère de l'angoisse. La misère du toxicomane, la drogue. Vous voyez, je crois que c'est très juste de réfléchir, pas tout le temps, mais si on fait de la philosophie, c'est pour être lucide par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Il faut être lucide par rapport à cela. Et la philosophie nous rend lucide. Si vraiment on fait de la philosophie, et une philosophie réaliste, on doit toucher les misères caractéristiques de cette fin du XXe siècle. Puisque nous sommes nés à la fin du XXe siècle. Et nous sommes nés sûrement pour répondre à cette misère en étant témoin de la miséricorde paternelle de Dieu à l'égard de cette misère. Et je dis bien une miséricorde paternelle parce que elle est radicale. C'est difficile d'aller plus loin que le mal du sida. C'est difficile d'aller plus loin que le mal de l'athéisme. Parce que vont encore inventer le démon pour le troisième millénaire. Si ce troisième millénaire existe, il y aura un super. c'est l'œuvre du démon de désagréger. Tu es poussière, tu retournes en poussière. Désagréger toute la structure de la personne humaine. Désagréger l'ordre de la sagesse. Alors, pensez au point de vue croyant. Quel est l'ordre de la sagesse qui réalise son chef-d'œuvre dans l'homme et la femme? Quelle est la manière de désagréger radicalement ce chef-d'œuvre? Par le point de vue spirituel, par le point de vue biologique. On touche la demi-sphère radicale, substantielle. Et je crois qu'on ne peut y répondre que par une miséricorde la plus radicale qui soit. Découvrir la vérité, c'est libérer l'homme de toutes les propagandes fausses qui le tiennent esclave. Le plus grand esclavage, c'est l'esclavage de l'orgueil. Et donc, on peut dire pour nous de l'idéologie. C'est l'esclavage suprême de l'intelligence d'être dépendant d'une idéologie athée, dépendant d'une idéologie tout court, puisque c'est s'enfermer sur soi et être incapable d'accueillir l'autre. quel a été ce moment de la confusion? C'est de remplacer le jugement d'existence par le je suis. Et que Descartes proclame cogito ergo sum. Ce qui est premier pour Descartes, puisque c'est la certitude la plus absolue. Le pharisien aime mieux la certitude que la vérité. C'est un des critères du pharisaïsme. Cogito ergo sum. Donc le cogito contient ergo sum, le je suis. C'est dans le cogito que je découvre le je suis. Et progressivement, on aboutit à ne plus regarder que le cogito et le développement du cogito, le développement de la vie intellectuelle. Et pour ne regarder que ce développement, on se sert de cette méthode. C'est plus qu'une méthode, c'est le développement même de l'intelligence. Parce qu'une méthode présuppose qu'on fasse la distinction entre la réalité et puis l'être logique. Tandis que là, on ne peut pas dire la dialectique n'est pas une méthode, c'est la philosophie elle-même. C'est le développement de la philosophie, c'est le développement de la vie d'intelligence. Et c'est pour ça que c'est si subtil et que c'est si difficile à capter, à saisir. Vous voyez, une méthode comme la méthode freudienne pour guérir, on voit que c'est une méthode. Mais au bout d'un certain temps, la méthode devient l'activité elle-même de l'esprit. Donc la méthode devient quelque chose de sacré. Et on fait passer la méthode avant la recherche de la vérité. Je crois qu'il faut être très pauvre aujourd'hui, très très pauvre, pour accepter tout le temps le primat de la vérité, comparativement à une méthode. Parce qu'on est tellement dans la méthode. Vous y dites, cette réflexion de ce professeur de Fribourg, professeur d'éthique, professeur allemand d'éthique, disant jusqu'ici on a affirmé le primat de l'objet, maintenant on affirme le primat de la méthode. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre la méthode et l'objet. L'objet spécifie, la méthode on va dire normalement elle aide. Elle est un support. Elle est quelque chose d'extérieur. Elle est un instrument. Et cet instrument détermine maintenant ce qui remplace l'objet. Et on est pris par ça. On est esclave de ça. Je crois que la plus grande miséricorde qu'on peut donner aux hommes aujourd'hui, c'est de leur redonner le sens de la vérité. Au-delà de toutes les méthodes. C'est le côté extrêmement difficile de la philosophie. C'est que la philosophie a une méthode très subtile. La recherche des principes. ça, je peux bien vous donner l'intelligence, mais pas l'intelligence. Et l'hypagogé, l'induction, c'est la découverte de l'intelligence. Et que chacun d'entre nous doit faire. Alors on peut montrer, point de départ, terre, oui. Mais qu'est-ce que c'est? Et quand vous êtes devant des psychologues, n'accepte que la psychologie. Vous êtes sans armes. Le petit David en face Goliath. Goliath, c'est la méthode. Et le petit David, c'est l'épagogé, l'induction, la découverte des principes, c'est les petits cailloux. C'est une telle fragilité. Celui qui a saisi comprend, c'est plus précieux que tout le reste. Mais celui qui n'a pas saisi et qui va avec ses gros sabots, c'est pas commode, on est toujours désarçonné. Il faut comprendre combien c'est difficile aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, d'être témoin de la vérité. Je crois qu'il faut bien le comprendre. Alors, chacun d'entre nous, à tous les niveaux, puisque la vérité est à tous les niveaux, être vrai dans la cuisine, être vrai dans le langage, être vrai dans la charge qu'on a. Parce que on peut tout camoufler derrière une méthode. La vérité. Être vrai dans nos rapports fraternels de charité et d'amitié. Dans notre affectivité. Être vrai dans notre affectivité. Et ne pas laisser l'affectivité dans son débordement imaginatif. On vit un monde imaginaire. Télévision, cinéma, et même imaginaire dans la science. Redécouvrir signification sur l'être. Dans le je suis, je ne peux pas. C'est le je qui fait que l'être est absorbé par le je. Et par le fait même, le je conscient, c'est l'idée. Les idées, Descartes dit l'infini, la liberté. C'est cogito. Le cogito, c'est le jeu. Alors, je crois que vous êtes très attentif à ça. Atrás. je suis où ceci est. Quand vous travaillez sur une matière qui préexiste à votre je suis. C'est donc ceci est antérieur à je suis. Quand vous dites je te choisis comme ami, qu'est-ce qui est antérieur à votre choix? L'ami. Ceci est. C'est pas je suis. Vous ne dites pas je suis donc je t'aime. Y a-t-il une métaphysique au-delà de la métaphysique? toi le développement. Est-ce que c'est un développement homogène ou une déviation? Si c'est un développement homogène, vous devez aboutir à la fin du XXe siècle, à dire nous sommes devant une nouvelle métaphysique qui fait la synthèse des deux. Ou si c'est une déviation, nous devons à la fin du XXe siècle dire là, il y a eu déviation. Ce qui est second est devenu premier. Et si ce qui est second est devenu premier, plus j'avancerai dans ce sens-là, plus je m'éloignerai de la réalité de la vérité. Je dois donc accepter de revenir à l'endroit où je me suis trompé. Moi, c'est-à-dire les hommes, mes frères les philosophes, ils se sont trompés là. Ils ont cru prolonger, creuser davantage déviation. Vous savez bien, on fait ça couramment quand on est en auto et qu'on est sur une autoroute et qu'on a oublié un panneau déviation. On a pris une déviation. Et si on continue, ça va plus. On ne sait plus où on va. Vous voyez, alors, il faut saisir ça avec une très grande acuité. Saisir que la confusion a été là. Et c'est pour cela qu'après l'analyse du ceci est, nous devons comprendre que nous pouvons aller plus loin dans la philosophie du je suis que ceux qui commencent par le je suis. Or, on ne l'a pas fait. On a continué d'affirmer la métaphysique de l'être. Or, c'est la métaphysique de l'être qui est première. C'est celle que font les bien-pensants dans l'ordre de l'intelligence. Et puis, ceux qui commencent par le point de vue de l'esprit, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Mais attention, il faut pouvoir non seulement montrer que ceci est seul, l'analyse de l'être. Et que si je commence par le je suis, je ne peux pas analyser puisque le je absorbe l'être. Donc je ne peux plus analyser. Je ne peux plus que décrire. Mais il faut, je crois, montrer que si je suis dans la vérité, je vais plus loin dans la réflexion philosophique du « je suis » que ceux qui commencent par le « je suis ». Pourquoi ? Parce que toute l'analyse que j'ai faite du « ceci est » est présente dans le « je suis ». Si toute l'analyse du « ceci est » est présente dans le « je suis », je peux donc avoir un regard beaucoup plus pénétrant sur le je suis que les philosophes qui commencent par le je suis. Autrement dit, la phénoménologie qui regarde le je suis et qui décrit le je suis reste dans un terrain ou dans une zone périphérique du je suis. Et ne pénètre pas dans la réalité profonde du je suis. Vous voyez ? Et je crois que c'est cela qui peut seul conquérir les cœurs et les intelligences. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la personne. On en parle tout le temps. On est en face des psychologues qui parlent de la personne. On est en face des juristes qui parlent de la personne. On est en face de... et ainsi de suite. Je crois C'est ce que nous essayons de faire, voyez. Encore une fois, nous essayons de le faire. Parce que je ne peux pas vous renvoyer à des études antérieures. Aristote l'a pas fait, Saint-Thomas n'a pas fait. Et les successeurs de Saint-Thomas n'ont pas fait. La scolastique n'a pas fait, n'a pas introduit le problème de la personne en métaphysique. Or, si on n'introduit pas le problème de la personne du « je suis en métaphysique », je ne réponds pas à ce qui commence la philosophie première par le « je suis ». Heidegger. Hegel. Et tous les modernes. C'est le « je suis » qui commande toutes les idéologies. Toutes les idéologies commencent par le « je suis », avec des tonalités différentes. Mais c'est tout le temps le « je suis ». Alors, il faut répondre à cela. On n'a pas le droit de laisser l'humanité dans une fausse piste. On a un devoir, en tant que croyant, de montrer que grâce à la foi, je peux, de l'extérieur, crier « gare ». Vous allez à un suicide universel. Le croyant peut dire ça, et le croyant peut dire aussi « mon intelligence peut se rectifier elle-même ». Elle est capable d'atteindre la vérité. Vous voyez, c'est quand même très curieux. Il faut quand même comprendre cela. Si j'essaie de regarder quels sont les sommets de la révélation, un regard contemplatif, c'est le « je suis ». De Dieu à Moïse, à tel point qu'on a dit que Moïse devait avoir la vision béatifique. Et le je suis de Jésus, chapitre 8, dans Saint Jean, c'est les deux grands sommets par rapport au mystère de Dieu. Nous sommes un. Et donc quand Jésus dit je suis, il parle du Père et de lui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc ça c'est Moïse, ici c'est au-delà d'Abraham. Alors c'est ça que je trouve extrêmement intéressant pour nous. Parce que je me suis toujours demandé, si quand Descartes dit « cogito ergo sum », ce n'est pas la nostalgie du croyant. La subjectivité transcendantale, elle n'est parfaitement vraie que pour la foi. La foi donne une subjectivité transcendantale. Mais une subjectivité tout de suite dépassé, puisque c'est la lumière de Dieu. C'est la lumière du Verbe. Donc en réalité, c'est la subjectivité transcendantale divine. Ce que Kant a oublié de mettre. Vous voyez, Kant est un luthérien, il ne faut pas l'oublier. Et par le fait même, son intelligence est corrompu. Et c'est la foi qui lui rend ça. Qui lui donne ce sens-là. Alors, voyez, le « je suis » premier du Créateur. Le « je suis » premier du Sauveur. Et le « je suis » ceci est le je suis de l'homme à l'image de Dieu. Et quand l'homme dit je suis,